Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci d'arriver en cours de route si vous nous rejoignez seulement et merci d'être là depuis le début si vous êtes là depuis le début. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages, notre invité le comédien Jean-Pierre Darroussin pour son premier seul en scène, ça s'appelle Rimbaud en feu. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebret. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel.
Et bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Bruno, tous les jours vous traquez ici les aspérités médiatiques et hier soir vous êtes tombé sur un moment saisissant au tout début de la nouvelle émission politique de BFM TV dans laquelle Valérie Pécresse était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre un journaliste visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle et la volonté d'une candidate à l'élection présidentielle de profiter d'une large exposition médiatique sans y laisser trop de plumes. En termes d'image, je vous raconte. La séquence s'est déroulée au tout début du programme, face à un Jean-Jacques Bourdin inhabituellement fébrile et qui a commencé par une question purement anecdotique.
J'imagine que vous êtes heureuse d'être ici en Corrèze.
Valérie Pécresse a tenu à faire une petite mise au point.
Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots.
Un préambule que Jean-Jacques Bourdin, dont le micro qu'il tenait dans sa main droite tremblait très vivement, avait préalablement accepté puisque Valérie Pécresse y avait ni plus ni moins conditionné sa présence à l'antenne.
Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentative d'agression sexuelle.
Visiblement assez mal à l'aise et incapable de dire à Jean-Jacques Bourdin « déposé contre vous », Valérie Pécresse poursuivit toutefois ses explications en continuant de s'adresser à celui qui se trouvait juste en face d'elle, à la troisième personne.
Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits.
Mis à distance par les mots, Jean-Jacques Bourdin, dont le tremblement des fiches qui tenait cette fois dans sa main gauche trahissait la très vive émotion, voulut alors intervenir, mais Valérie Pécresse lui fit un signe de la main. Un signe qui indiquait que ce n'était pas son tour. Pas encore, car elle n'en avait pas tout à fait terminé avec lui.
Mais je voudrais le dire très clairement. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées.
Alors bien sûr, Valérie Pécresse prit soin de justifier sa présence en invoquant l'incontournable présomption d'innocence dont bénéficie le journaliste, mais elle profitait de l'occasion pour préciser dans une formule aux accents largement programmatiques son avis sur la question.
Trop de femmes ont eu peur pendant longtemps de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte.
Voilà, c'est donc après tout ça que Jean-Jacques Bourdin indiqua d'une voix blanche qu'on ne lui connaissait pas quelle était sa position à lui.
Je voudrais ajouter, Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail.
Séquence totalement inédite à la télévision et pour autant hautement embarrassante à maints égards. Gênante d'abord pour Jean-Jacques Bourdin, dont la présomption d'innocence aura été très méchamment malmenée. Délicate ensuite pour Valérie Pécresse, car que n'aurions-nous dit, Philippe, si elle avait accepté de répondre sans dire le moindre mot de l'affaire à un homme accusé de faits d'une extrême gravité. Et compliquée enfin pour BFM TV qui, en refusant d'écarter de l'antenne son journaliste au motif qu'il n'a pas été jugé, là, malgré elle, hautement fragilisée dans la pratique de son métier. Le débat est complexe, toutefois, j'aimerais pointer ici un paradoxe, car sur l'autel de la neutralité, de l'indépendance nécessaire à la sérénité des débats, tous les journalistes qui sont en couple avec des personnalités politiques sont éloignés de l'antenne, privés d'émissions politiques. Leur présomption de professionnalisme, d'honnêteté intellectuelle est ainsi allègrement foulée aux pieds. En revanche, sur l'autel cette fois de la présomption d'innocence, ceux qui sont accusés d'agression sexuelle peuvent rester à l'antenne. Il y a là, me semble-t-il, matière à réfléchir pour tous les patrons de chaîne.
Télescopage, comme vous dites. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. Nicolas Caro, le programme de votre indispensable ce matin aux alentours de 10h30.
Oui, j'ai un grand et beau livre sur le futur. À peu près.
À peu près. Et Stéphanie Loire, c'est plutôt le passé, ce sera de la musique.
Des revisites de Jean-Jacques Goldman et le nouvel album de la formation électro Hills, vous vous rappelez ?
Bah évidemment, je me rappelle Jean-Jacques Goldman aussi. Il est toujours là, Goldman. Dans un instant, on sera avec Jean-Pierre Darroussin, le comédien. On parle de son premier seul en scène, ça s'appelle Rimbaud en feu. Mais d'abord, On Fire, musique, avec Placebo sur Europe 1.
9h-11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel. Exactly why I stay. Beautiful chance.
Beautiful James, c'était Placebo et sa guitare saturée sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Pierre Daroussin.
Bonjour.
Vous êtes qui? Il cherchait le micro. Oui. Il était dans le studio, il cherchait le micro. Vous êtes comédien, le grand public, vous avez découvert dans Mes meilleurs copains, vous étiez déjà un petit peu halluciné comme ça. Vous avez obtenu le César du meilleur second rôle en 97 pour Un air de famille. Le film, je vais citer également Cuisine et dépendance avec Bacri et Jaoui évidemment. Marius et Jeannette avec la bande de Robert Guédiguian, dont vous êtes un des piliers. Le corps des hommes 1, 2 et 3. Et vous êtes donc passé du second rôle au premier plan. Molière 2018 du meilleur comédien. Pour votre prestation dans Art, la pièce de Yasmina Reza. Votre actualité, c'est celle-ci, Rimbaud en feu. Votre premier seul en scène, c'est au Théâtre Antoine. Spectacle qui doit beaucoup à Rimbaud, le poète évidemment, à son auteur Jean-Michel Dian, qui l'a écrit pour vous, mais aussi au confinement. Racontez l'histoire de ce spectacle.
Je devais faire un spectacle au Théâtre Antoine qui ne s'est pas fait à cause de l'épidémie. Ouais. Et puis, le théâtre m'a proposé un challenge d'avoir une carte blanche, de faire un seul en scène. Pour, voilà, ils m'ont proposé ça, comme des producteurs, finalement, proposent des choses parfois à des acteurs ou des metteurs en scène. Et j'ai relevé ce défi, mais je m'en suis pas trop sorti au niveau écriture. Et j'ai un ami qui est Jean-Michel Dian, qui est un journaliste, écrivain, qui est un homme de culture et qui a travaillé, entre autres, pas mal aussi sur Arthur Rimbaud. Et il m'a proposé cette idée. Il me dit, je vais essayer d'écrire. Si c'est pas bon, on ne gardera pas. Mais si c'est bon, on fera quelque chose. Et puis, il a écrit, il m'a envoyé des textes. On a travaillé un petit peu ensemble. On a défini quelques directions. Et puis, l'idée m'a séduit. Parce qu'en fait, il est parti sur l'idée d'un Arthur Rimbaud qui ne serait pas mort.
Ouais.
Et qu'aurait vu la suite de ce qui se passe, puisque Arthur Rimbaud était tellement moderne et tellement voyant, tellement prophète de la vie et de ce que ça allait devenir la modernité. Et ça l'intéressait, la modernité, Arthur Rimbaud. Et donc, voilà, on a imaginé qu'il ne soit pas mort et qu'il survive dans le corps d'un homme qui est, ma foi, du coup, un peu aliéné, parce que, voilà, étant habité par l'âme d'Arthur Rimbaud, il se prend pour Arthur Rimbaud, évidemment.
Spectacle prodigieux, parce que ça part dans tous les sens, ça ouvre plein de portes. Alors, je précise, si vous passez le bac français à la fin de l'année, Arthur Rimbaud est mort en 1891, mais le spectacle, j'ai bien compris, situe vers 1924, il y a plein de références à André Breton, Manifeste du surréalisme. Il a déjà la soixantaine, votre Rimbaud, il a votre âge.
Oui.
Alors qu'en réalité, le vrai Rimbaud est mort à 37 ans. Moi, quand j'étais petit, dans l'Almanach Vermeaux, il y avait des fous dans des asiles qui se prenaient pour Napoléon. Et là, c'est un type qui se prend pour Rimbaud, c'est Rimbaud lui-même. Vous l'avez joué comment? Parce qu'on comprend que c'est dans la salle, dans une chambre d'un asile psychiatrique.
Oui, mais c'est l'idée de départ. C'est quelqu'un qui évidemment, personne ne le sait. Il fait cette confidence au public que ce 10 novembre 1891, alors que tout le monde pense qu'il a rejoint le bon Dieu, en fait, il s'est carapaté, il est parti, il a réussi à s'échapper de son lit de mort, et pour devenir cet oiseau. Ouais. Cet oiseau qui voit des choses, qui voit des archipels sidéraux, qui se voit lui-même. Et
il sait lui-même qu'il est mort.
Oui,
il dit, il m'a quand même fallu mourir à Marseille pour y voir clair.
Oui, oui.
Donc il parle de lui après sa mort.
Oui, il est tout à fait conscient d'avoir touché du doigt le mystère, comme il le dit.
Et il passe en revue toute la culture du XXe siècle. On va entendre un extrait, c'est très 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 difficile de choisir. C'est une captation, je précise que le spectacle n'est pas comme ça, mais je voulais juste qu'on situe un tout petit peu l'ambiance. Il est question de grands noms de la poésie et de la culture française.
Ces curés, ces bourgeois, ces artistes endimanchés qui continuent de se récurer la cervelle avec mes vers, avec ceux d'Hugo, Baudelaire, Vautréamont. Franchement, à quoi ça sert ? L'art est une sottise! Et je place pour André Breton. Il se défonce avec des mots, avec des illuminés en ordre de bataille. Mais qu'est-ce qu'il croit, le bougre? Il va changer le monde en rameutant tous les dingues?
Est-ce qu'on peut changer le monde en rameutant tous les dingues? C'est une très bonne question. Il y a des références à Boris Vian, au collège de pataphysique, hommage à Léo Ferré, il y a des chaises Stark modernes, vous êtes en survêt Adidas, très récent. Et alors, il fait des références appuyées, votre auteur, Gian, à un auteur méconnu, même inconnu de moi, je connaissais que son nom, Ignace de Loyola. Qui était Ignace de Loyola?
Ignace de Loyola, c'est un curé, hein, c'est un moine, qui, comme beaucoup de moines du Moyen-Âge, cherchait à travers la Cèse à comprendre des phénomènes qui étaient expliqués.
Mais pourquoi il est fascinant? Pourquoi il est intéressant?
Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce spectacle? Voilà, j'ai mal posé la question.
Puisque le personnage est traversé par l'âme d'Arthur Rimbaud, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'âme? Comment est-ce que ça existe, l'âme, déjà? Donc il y a plein de gens qui ont travaillé sur l'âme. Il y a notamment, je parle aussi de Douglas, MacDouglas, qui a fait des expériences aux États-Unis au début du siècle sur les gens qui allaient mourir et une fois qu'ils sont morts. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement ce fameux 21 grammes, il y a même un film qui a été
le
fait.
Poids de l'âme, ouais.
Le poids de l'âme. Et on a essayé de trouver ça. Et ça n'existe pas sur les animaux, ça n'existe que chez les hommes, ce 21 grammes. Donc il y a une consistance, il y a quelque chose qui existe de l'âme. Lui, Ignace de Loyola, c'est quelqu'un qui a écrit, qui a travaillé sur l'existence. Où est-ce qu'on la trouve, l'âme? Où est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'on peut la percevoir quand on oublie son corps? Puisque l'âme, c'est quelque chose qui est séparé du corps, puisque lorsque l'on meurt, l'âme s'en va et que le corps reste.
Est-ce que vous avez gardé votre âme d'enfant, Jean-Pierre Darroussin?
Mon âme d'enfant...
Oui. Alors ça ne pouvait pas mieux tomber. Lisa Marie Marquez arrive, c'est le portrait pré-fame de notre invité Jean-Pierre Darroussin. Comment il était avant d'être connu? Comme ça, on marque une pause, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, vous avez bien raison, nous sommes en compagnie du comédien Jean-Pierre Daroussin. On parle de la pièce de théâtre qui est plutôt un spectacle, un seul en scène, Rimbaud en feu. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Jean-Pierre Daroussin.
Bonjour.
Vous êtes une figure du cinéma français, mais aussi du théâtre. Vous avez remporté un César et un Molière, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jean-Pierre Daroussin, vous êtes né à la montagne. Alors, pas à la neige, mais à la clinique, la montagne, à Courbevoie. Et enfant, ça vous amuse de créer la confusion quand on vous demande où vous êtes né.
Ouais.
Vous grandissez dans un pavillon exigu, 18 mètres carrés, que vous partagez avec votre grande sœur Monique et vos parents. Vous vous rendez compte que c'est petit le jour où vous devez faire le plan de votre maison à l'école, c'est ça?
Oui, c'est vrai. La maîtresse avait demandé comme exercice de faire le plan de la maison. Et moi, c'était vraiment 3 mètres sur 6. Donc, c'était vraiment... Donc là, j'étais un petit peu humilié, c'était bizarre.
Enfant, vous montrez très vite de grandes capacités de mémoire. Vous apprenez une récitation en la lisant et vous agacez gentiment votre grand-père, votre grand-mère Marie quand vous jouez au jeu des sept familles avec elle et que vous tenez vos cartes en paquet et pas en éventail parce que vous les retenez par cœur, d'un seul coup d'œil.
C'est pas vrai. Et vous êtes toujours hypermnésique ?
On me le dit, oui, il paraît. Mais oui, un petit peu, oui. C'est vrai, je reconnais que ça va vite pour apprendre des textes. Et puis, je retiens beaucoup de choses, oui.
Vous passez tous les étés dans le Berry, au Grand Air. Et puis, votre papa est étameur. Il vous apprend à bricoler, à limer, à faire de la soudure lorsque vous passez à son atelier. Et il chante tout le temps la même chanson. Une chanson qui va bercer votre enfance. C'est le temps des cerises d'Yves Montand.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Et Télescopage, vous la chantez cette chanson?
Oui,
spectacle. C'est votre idée? Vous avez demandé ça à l'auteur, à Dion?
Oui, absolument. Ça me paraissait évident de chanter cette chanson-là pendant le spectacle. En tous les cas, le personnage que j'interprète doit être aussi... il a envie de chanter cette chanson qui est la chanson symbolique du peuple, j'allais dire du monde ouvrier, quoi. Voilà.
Jean-Pierre Daroussin, vous découvrez le théâtre à l'école avec Madame Luquet, votre institutrice, qui vous fait travailler le malade imaginaire. Vous jouez le rôle d'Argan. Vous avez le sens du costume. Vous prenez votre robe de chambre à la maison pour rentrer dans la peau du personnage. C'est votre premier contact avec le théâtre. Vous continuez à la MJC de Courbevoie. Vous jouez par exemple dans la pièce Poivre de Cayenne à 14 ans avec cette réplique que vous répétez en boucle, casser des cailloux. Jean-Pierre Daroussin, à 17 ans, sans passer votre bac, vous vous émancipez et vous quittez la maison familiale pour vous installer avec des copains dans un pavillon à Colombes. Votre papa passe le soir pour s'assurer que tout va bien. Vous travaillez un temps avec lui, dans son atelier, puis vous vous retrouvez dans un bureau, à la Défense, pour gagner votre vie. Vous passez de longues journées dans une tour.
Vous faisiez quoi comme boulot?
À la Défense,
ouais.
J'étais garçon de bureau, je collais des timbres sur des enveloppes, et puis je devais faire le résumé du courrier du matin pour le grand patron des usines et aciéries de Sambre-et-Meuse, l'UASM, et je devais faire le résumé du courrier, et je lui apportais le matin, dans son grand bureau de la tour Aurore à la Défense, je lui apportais mon résumé tous les matins du courrier, voilà.
Incroyable.
Après ces journées à coller des timbres, vous retrouvez votre colocation et la vie en communauté se passe bien. C'est un peu la maison du bonheur. Vous hébergez les copains, parfois des américaines dans le salon. Ça joue de la musique rock dans la cave et vous prenez même le micro pour chanter, parfois. Vous livrez aussi le journal Libération avec la Deux Chevaux que votre papa vous a offerte.
Il ne m'a pas offert, j'ai travaillé pour me la payer.
Pour me la payer.
Ça, vous avez dû avoir des sources un peu...
Il y a eu quelqu'un chez Citroën.
C'est ça. Mais un jour, vous vous encastrez dans la laverie à l'angle de la rue Trévis et la rue Richer à Paris avec cette Deux Chevaux que vous étiez payé.
Comme on faisait la livraison du journal Libération la nuit pour les différents points de presse, l'AFP, l'Agence Reuters, les machins, tout ça, fallait et j'allais chercher le journal à l'imprimerie à Bondy. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu le premier numéro sortir sur l'imprimerie. J'étais là le jour.
C'est pas vrai, le numéro 1 de Libé.
Le numéro 1 de Libé.
Le Libé original avec Jean-Paul Sartre.
Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'était pareil, comme pour le patron de l'UASM, j'allais apporter le journal rue de Lorraine à Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que je tapais à la porte, j'attendais savoir si j'entendais oui ou pas ou quoi que ce soit, et je lui tendais l'épreuve du journal.
Mais Jean-Pierre Darroussin, vous avez surtout envie de devenir acteur. Et votre papa Paul vous dit que si vous voulez vraiment le faire, il faut le faire sérieusement. Alors vous vous installez à Paris, vous vous inscrivez au cours Florent, puis l'école de la rue Blanche, vous intégrez le conservatoire, vous obtenez quelques rôles au cinéma à sa sortie, mais surtout vous intégrez la troupe du Chapeau Rouge, avec entre autres Catherine Fraud et le metteur en scène Pierre Pradinas. Vous partez en tournée en France, parfois même à l'étranger, comme en Pologne, où vous remportez là-bas un concours de questions de culture générale entre les membres de la troupe. Et le trophée que vous gagnez, c'est un bugle, un instrument de musique, ah oui, une sorte de trompette. Après cette période, lorsque la troupe se sépare et alors que le cinéma vous tend les bras, vous décidez du jour au lendemain de quitter Paris et cette vie de comédien pour vous installer à la campagne et devenir instituteur. Cette période dure un an, une mise au vert, une pause, mais vous ne serez finalement jamais instituteur. À votre retour en ville à Paris, vous faites des essais pour le film « Les meilleurs copains » de Jean-Marie Poiré et vous décrochez le rôle de Daniel Pécou, alias Dany, un jeune homme un peu babacool pour qui le mal n'existe pas. Votre réplique devient culte. Mais vous n'allez pas vous spécialiser dans les rôles de pitre, Jean-Pierre Darroussin. Votre palette d'acteurs est tellement plus grande et Dada, comme on vous surnomme depuis toujours, vous n'allez plus cesser de montrer l'étendue de votre talent sur les planches et devant la caméra. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa Marie. Réaction, Jean-Pierre Darroussin.
Bah, je vois à peu près qui vous avez eu des sources.
Je ne dirai rien.
Ah oui,
non, mais tout était vrai. À part l'achat de la deux chevaux, tout était vrai.
Oui. L'achat de la deux chevaux, oui, parce que finalement. C'est parce qu'ils imaginaient que c'était mon père qui me l'avait payé, mais pas du tout. J'avais travaillé justement
pour me payer. Et franchement, si on doit faire des livraisons rapidement, une bagnole qui tient bien la route, c'est bien la deux chevaux. Merci beaucoup, Lisa Marie. Vous êtes là demain. Culture Média continue. On parlait de musique, on parlait de littérature. On est toujours avec Jean-Pierre Darroussin et on en est ravis.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Pierre Darroussin, comédien, c'est votre premier seul en scène. C'est sur la scène du Théâtre Antoine, je ne l'ai pas encore dit. C'est du mercredi au samedi, c'est à 19h. Ça s'appelle Rimbaud en feu, mais c'est Rimbaud très, très, très librement revisité, y compris dans le temps. On va en parler avec Nicolas Caro, puisque ça, il raconte ce qui se passe après sa mort en 1891. Il y a des anecdotes assez incroyables, donc pas sur Rimbaud, mais des vraies anecdotes. Enfin, j'espère qu'elles sont vraies. Oui. C'est authentique l'anecdote de l'usine Pernod de Pontarlier qui prend feu.
Oui, c'est authentique.
Ah, racontez ce qui s'est passé.
Bah, d'abord, Rimbaud, évidemment, il est un peu sensible à l'absinthe et on fabriquait l'absinthe dans cette usine dans le Jura, même si Pontarlier, c'est dans le Doubs, mais c'est quand même dans le massif du Jura.
Attendez, je dis un mot pour les plus jeunes. L'absinthe, c'est un produit qui rendait complètement dingue, au point, ça tapait sur la tête, au point que ça a été interdit ensuite.
J'aime bien que vous me regardiez.
Mais donc, à l'époque,
vous dites ça. Pour les plus jeunes, c'est normal qu'on vous regarde.
Mais en tout cas, à l'époque, c'est en vente libre, c'est Pernod qui le fabrique, et l'usine Pernod d'absinthe prend feu.
Oui, elle prend feu, et donc, il y a parce que c'est forcément, l'alcool qui chauffe, ça risquait d'exploser. Donc, il y a un employé, c'est ce que je raconte, les employés sont mis à verser toutes les cuves dans lesquelles les réserves d'alcool dans la rivière. Comme ça fait quand même 65 degrés d'alcool, c'est un petit. Voilà, c'est la Loue, c'est une petite rivière. Et évidemment, tout le monde commençait à boire cette eau de la rivière avec de l'absinthe dedans. Parce que c'est comme si c'était. Parce qu'en fait, l'absinthe, c'est un peu comme le pastis ou un truc comme ça. Hein. C'est-à-dire, ouais, justement, ça se mélange avec de l'eau. Ouais. Donc, d'un seul coup, on avait une rivière
d'absinthe. Trop bien. Et il y a les pompiers, vous racontez, il y a les la pompiers. Garnison du coin qui vient et on croit qu'ils vont aider à éteindre le feu. Pas du tout. Les mecs, ils viennent.
Tout le monde voulait se baigner.
Ils sont sous les cuves. Sous les cuves. On a envie d'y être. Ouais, c'était trop, trop bien. Ça boit de l'alcool dans la musique, Stéphanie Loire, ou jamais?
Oh, c'est une légende, jamais. Ni alcool ni drogue, vous le savez.
C'est
bien.
C'est bien ce qu'on m'avait dit. On va parler de littérature, Nicolas Caro, avec vous. Rimbaud, il n'est pas tout à fait en 1891, puisque cette histoire date de 1901 et ça ne pouvait pas mieux tomber, parce que ce matin, Nicolas Caro, vous nous proposez un voyage dans le temps.
Un voyage vers le futur.
Ah, je reconnais cette musique. Vous reconnaissez la musique, Jean-Pierre Darroussin?
Ça, c'est 1985.
Back to the Future.
Retour à le futur.
Alors ça, en 85, c'est une période où je ne vais pas beaucoup au cinéma parce que justement, je fais beaucoup de théâtre. Je suis tous les jours sur scène et je répète tout le temps, et je vais voir d'autres spectacles. Alors le cinéma, c'est dans les années 80, pour moi, ça m'a échappé. Alors,
il là, est sorti en VHS.
Là, on est dans les livres, hein. C'est dans le titre.
Oui, c'est facile, ça s'appelle « Le futur », avec un sous-titre « À peu de choses près ». C'est chez Eubek, mais c'est l'équipe d'Uzbek Erika qui propose ce beau livre. Uzbek Erika, c'est un magazine génial qui publie des informations sur le futur, donc. Mais pas grâce à une boule de cristal, grâce à leur observation du présent et des articles scientifiques, sociologiques, des innovations, parce que, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais nous vivons dans un roman de science-fiction aujourd'hui.
La
quasi-totalité des inventions, des gadgets imaginés par les écrivains depuis la fin du 19e sont aujourd'hui réalité.
Comme la valise à roulettes et l'écran plat. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nouveau ?
Alors, par exemple, il y a le projet fou de Georges Mougin, un Français qui a décidé de remorquer des icebergs pour fournir en eau potable les pays du Sud en utilisant les courants marins comme des tapis roulants. Ouais. Il travaille dessus depuis les années 70. Au départ, c'était trop compliqué, mais petit à petit, quand même, l'idée fait son chemin et techniquement, ça avance. Dassault Systèmes l'accompagne, mais enfin, c'est pas encore fait. Ça représente 100 tonnes de glace quand même et les ordinateurs ont calculé ce qui se passerait si le rocher de glace se cassait en deux durant le remorquage. Ça donnerait des vagues de 50 à 60 mètres, ouais. C'est-à-dire adieu le remorqueur et l'équipage. Mais t'imagines... il y croit toujours.
T'imagines l'absinthe qu'il faut pour éponger.
Il est interviewé dans le livre.
T'imagines l'absinthe qu'il faut pour éponger des glaçons pareils. Mais en vrai, blague à part, je reviens sérieux, c'est surtout des problématiques environnementales.
Pas seulement, mais effectivement, pour beaucoup, l'avenir n'est pas très rose, comme les survivalistes qui se préparent à un futur en forme de fin du monde. Une journaliste d'Uzbek Erika a suivi un expert de la survie dans le Périgord, à Sarlat, avec ses stagiaires. Il y a aussi le projet Quiet Parks International, j'adore. C'est un type, Gordon Hampton, un Américain, qui chasse le silence. Il répertorie pour
c'est
sauvegarder
beau,
les endroits non pollués par le bruit humain ou pour la musique de Stéphanie Loire. La forêt de Haut, par exemple, au sud-est de Seattle, on peut encore y écouter le silence, sans bruit de machine, sans sirène, sans moteur, sans cri, etc. Mais ça devient très rare.
Et nous alors, humains, qu'est-ce qu'on va devenir ?
C'est pas le plus joli. Il y a toute une partie du livre consacrée à la chirurgie esthétique du futur, au quantify self. Vous savez, c'est cette manie de tout savoir sur notre corps en permanence, les applis qui mesurent notre taux d'oxygène, nos battements cardiaques,
le
etc.
Le nombre de pas. On n'a rien
exactement
demandé, on connaît notre nombre de pas.
A priori, ça va faire que s'amplifier. Et il y a aussi une chance ou un risque, c'est selon, que l'on devienne moitié homme, moitié robot. Timu Arina, un Finlandais, a décidé d'aller au bout du concept. Ça s'appelle un biohacker. Il veut modifier son corps à l'extrême avec des technologies pour voir jusqu'à quand il restera humain et à quel moment il basculera dans le robot. Ou Rich Lee, dans le même délire, qui s'est implanté des écouteurs dans les oreilles, pas parce qu'il avait des problèmes d'audition. Maintenant, son but, c'est de devenir super intelligent en modifiant son cerveau et obtenir une force surhumaine.
Surhumaine, en deux mots, en fait.
Et ben voilà, exactement, c'est le mot. Tous les pans de la société sont explorés. La conquête spatiale, la culture, le sexe, les machines, les différents scénarios. Parce que, comme le dit Hervé Le Tellier, prix Goncourt, dans la préface de ce grand livre, il faut penser l'avenir, puisque si nous ne le pensons pas, nous n'en aurons pas.
Ça s'appelle « Le futur à peu de choses près ». C'est un très beau livre chez Hubeke que Jean-Pierre Daroussin est en train de feuilleter. Ça vous intéresse, ce livre ?
Oui, oui, ça m'intéresse parce que c'est évidemment très, très angoissant, très effrayant. Tous ces gens qui veulent nous faire font des inventions. Je ne sais pas, vous parlez de ça, mais le type qui veut faire des trains où on va rouler à 1000 km/h dans des tubes, on ne verra même plus le paysage, on va rentrer là-dedans comme dans un suppositoire et on va être envoyé à 1000 km/h. Mais
moi, j'ai toujours rêvé d'être un suppositoire, donc moi, ça me va. Oui. C'est chacun son truc.
Je viens d'avoir la punchline, je suis obligé de marquer une pause là-dessus. On marque une pause, vous méditez sur cette phrase de Stéphanie Loire. On parle musique juste après ça. Ça va pas être facile d'enchaîner. Jean-Pierre Daroussin, je suis absolument désolé.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bandel.
En compagnie de Jean-Pierre Daroussin, il est un peu en feu, Jean-Pierre Daroussin. Pourquoi je dis ça ? Parce que Rimbaud en feu, c'est le nom de son spectacle, son seul en scène, qui joue au Théâtre Antoine du mercredi au samedi. On a pris par Lisa Marie, et je vous l'ai raconté, qui chante Le Temps des Cerises. Là, on fait un step dans le temps avec vous, Stéphanie Loire. Bonjour.
Bonjour à tous.
Rebonjour. Tour d'horizon des Jean-Pierre. Sorties musicales. Bonjour. Et des revisites de Goldman, Jean-Jacques Goldman, oui. On vous dit. Et le nouvel album de la formation électro, comme ça qu'on dit, Hills. Vous commencez par quoi ?
Il est encore un peu tôt. Hein. Je vais ménager vos petits cœurs fragiles. Oui. Je commence en douceur avec Goldman, l'héritage. On ira sur l'électro après les préliminaires.
On ira sur.
Après les deux tomes de Génération Goldman en 2012 et 2013, voilà un nouvel album hommage à la star, l'héritage Goldman.
Je te donne toutes mes différences, tous c'est des fous qui sont tout pour de chance.
En plus, on a une version réinterprétée par Jean-Pierre Larroussin. Je trouve que c'est vraiment un plus.
Ouais, Jean-Pierre, on vous entend chanter.
Oui, on m'entend chanter sur Jean-Pierre Goldman. Ça
ouais, j'aime bien.
Pas,
j'aime on avait laissé les micros ouverts et j'en suis ravi.
Non, mais c'est la magie de Goldman, c'est-à-dire qu'on connaît tous les chansons et c'est difficile de ne pas chanter. La preuve avec Jean-Pierre Larroussin. Alors là, c'est le chœur de gospel de Paris et des très jolies voix, principalement de la nouvelle génération, qui revisite dans de nouvelles versions et de nouveaux arrangements des tubes de Goldman, puisque à l'aube de ses 70 ans, malgré le fait qu'il ait quitté la scène médiatique, la musique de Jean-Jacques Goldman, elle s'impose toujours sur les ondes des radios. C'est et dans vrai. Les petits recoins de notre intimité, qui n'a jamais démarré une journée sous la douche avec une rage de vivre folle en se servant du pommeau comme d'un micro et en chantant ceci. On l'a tous fait.
Ouais.
Oui, Jean-Pierre, vous l'avez fait.
Alors, non. Moi, je l'entends tous les matins parce que ma femme le fait.
Ah voilà, très bien.
Elle chante tous les matins du Goldman.
Non,
femme.
Elle chante pas tous les matins, mais en tous les cas, c'est une grande fan de Goldman et même pour son anniversaire, j'avais fait organiser avec un orchestre qui des gens qui imitent Jean-Jacques Goldman qui
génial.
Sont venus pour faire son anniversaire. J'avais trouvé ça parce que je sais que parce que c'était une espèce de pari
c'est
que de faire ça avec.
Et vous l'avez déjà rencontré en vrai ?
Jamais.
Wow. Moi non plus, j'aimerais beaucoup d'ailleurs s'il nous écoute.
C'est rare,
voilà. Jean-Jacques, n'hésite pas à passer une tête. Alors, Goldman, auteur de 265 titres et presque autant de tubes à son actif qui lui rapporterait plus de 2 millions d'euros de droits annuels.
Ce qui est mérité.
Oui, la star se fait discrète, mais son arrangeur Eric Benzi a pensé aux fans, comme votre femme, et sort cet album Hommage le 21 janvier prochain, donc vendredi. Parmi les interprètes de ses reprises, Michael Jones, qu'on a entendu, Mentissa, Lilian Renaud, Cyprien, tous issus de The Voice, mais aussi Marie Cooper. On retrouve le titre « Pas toi », interprété par Marina Kaye. Les 13 titres revisités sont mis en musique par la violoncelliste Camille Berthollet et sa sœur Julie Berthollet, violoniste. Il s'agira du premier volet du projet d'Eric Benzi, qui prévoit ensuite, puisqu'il y a beaucoup de tubes, hein, de revoir des titres comme Envole-moi, comme toi, quand la musique est bonne, avec cette fois une touche irlandaise. Je ne sais pas ce que ça peut donner.
Ouais, Cyprien, ce n'est pas le youtubeur.
Non.
Parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a des concerts prévus. On salue Cyprien, qui était notre invité la semaine dernière.
Il va y avoir des concerts, une tournée avec passage à l'Olympia le 25 septembre, puis ensuite au printemps 2023 dans les Zéniths. Je précise une dernière chose, Jean-Jacques Goldman a fait savoir qu'il n'était pas du tout impliqué dans cet opus qui porte son nom.
C'est ça les stars. Voilà. On termine avec de l'électro.
Oui, la formation Hills, qui s'apprête à sortir son 14e album studio intitulé Extreme Witchcraft le 28 janvier prochain. Alors avant d'aller plus loin, je vais resituer Hills. Ouais. C'est un projet en constante évolution du chanteur-compositeur Marc-Olivier Everett, depuis leur premier album qui date de 96, Beautiful Freak, porté par ce tube envoûtant qui rend nostalgique de cette époque formidable où on portait des tétines en plastique autour du cou pour avoir l'air cool.
T'as jamais oublié.
C'était bien, c'était nouveau.
C'était bien, c'était pas électro à l'époque, c'était rock.
Non, ouais.
Rock alternatif.
C'était alternatif, il y a des
ouais,
prémices électro.
À l'époque,
électro.
Il y avait quand même déjà aussi les Chemical Brothers, ou les ouais. choses comme ça, qui étaient vraiment électro. Là,
voilà, c'est, là je sens qu'on est sur le terrain de Jean-Pierre.
On y est
direct. Pour ce 14e album, le leader des Hills a coproduit l'album avec une pointure, le producteur et guitariste de PJ Harvey, John Parrish. Le premier single, c'est Goodnight on Earth, un titre rock à guitare énergique et refrain addictif, qui fonctionne aussi très bien sous la douche matinale, testé et approuvé. Bon, attention, excusez-moi, je suis toujours sur la douche, hein, mais faites attention à ne pas glisser sur la faïence quand même, parce qu'on peut sacrifier un coccyx.
On résume l'actu. Alors, Hills, l'album Extreme Witchcraft, le 28 janvier prochain. L'Héritage Goldman, le 21 janvier. Lequel des deux vous a intéressé en priorité, Jean-Pierre Darroussin, ou les deux?
Goldman, évidemment, parce que même si le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui chante, parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que quand c'est lui qui chante, il y a une émotion énorme qui passe quand Jacques Goldman chante.
Toujours.
Il est bon sur tous les terrains du jeu. Merci beaucoup Stéphanie Loire.
Merci.
La dernière ligne droite de Culture Média, Darroussin, toujours avec nous. Marc-Antoine Lebret, ses stories arrivent.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Pierre Darroussin, Rimbaud en feu, c'est au Théâtre Antoine. C'est du mercredi au samedi à 19h. C'est écrit par Jean-Michel Dian, mais on sent que parfois vous êtes totalement d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il vous fait dire.
Oui, on a discuté ensemble avant d'écrire quand même.
Ouais, j'ai bien senti ça, on parlait de deux chevaux tout à l'heure, la Citroën Picasso, vous l'aimez pas?
C'est le fait, je n'ai jamais compris.
C'est qu'elle s'appelle Picasso.
C'est le symbole de la récupération d'un artiste à dessein commercial. Et que comment l'industrie qui déjà, on va dire, intervient de façon peu morale sur l'art.
Ouais.
Là, c'est un comble pour moi d'avoir. Je ne sais pas d'où est sortie cette idée de prendre le nom de Picasso pour une voiture, mais je trouve ça absolument lamentable.
Mais les héritiers auraient pu dire non. Mais donc ils l'ont fait avec les accords des héritiers. Je ne vais pas dire ça, ça va vous énerver encore plus.
Non, mais ça, c'est encore pire, absolument, bien sûr. Ce n'est pas une raison. Il ne devrait même pas être sollicité. C'est ridicule. Mais en même temps, c'est encore plus bête, évidemment, d'accepter.
Vous êtes toujours un immense fan de football ?
Oui, ça je regarde beaucoup.
Je vous pose la question parce que les séquences du spectacle sont scandées par des coups de sifflet, comme si l'arbitre il vous mettait hors-jeu, coup franc ou sortie de but. C'est fait exprès, évidemment.
Oui, c'est des rappels à l'ordre. Quand le personnage part un petit peu trop devient un peu incontrôlable et que lui-même se dépasse.
Ce sont des sifflets d'arbitre, c'est pas des sifflets de sergent de ville ou un mélange des deux.
C'est des sifflets comme dans une cour de prison aussi. Hein. Ce sont des choses qui se font.
Je voudrais dire un mot de Jean-Pierre Bacri, que vous connaissez bien, que vous avez bien connu, qui nous a quittés il y a un an. Je vous en parle parce que vous avez raconté avoir vu avec lui le fameux match de foot funeste France-Bulgarie qui a privé la France de la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est ça ?
Oui, bon, on était... quand on jouait Cuisine et Dépendance, Un air de famille, on se voyait beaucoup après tous les soirs et on passait les soirées ensemble. Et on a regardé beaucoup de matchs de football ensemble, puisque Jean-Pierre était... très fan de ça aussi. Et
vous gardez quel souvenir de lui ?
Mais tellement drôle. Mais tellement drôle. Vraiment, c'est la personne qui m'a fait le plus rire au monde.
C'est pas facile d'enchaîner. Je veux juste dire qu'on va vous voir dans une série TF1 qui s'appelle Une si longue vie. Ce sera avec Mathilde Seigné, un polar. C'est une série britannique qui avait cartonné et qui arrive en France. Et puis la pièce qui devait se faire avec Laura Smet, elle va se faire une fois que toute cette histoire de Covid et de confinement sera passée.
Il est tout à fait question qu'au mois de septembre, on la crée au Théâtre Montparnasse.
10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebret. Chaque matin, il y a des personnalités qui viennent à la rencontre de notre invité Jean-Pierre Darroussin. Aujourd'hui, c'est François Hollande, l'ancien président, qui est venu vous voir en spectacle il y a quelques jours. Ouais, et il est ici.
Bonjour. Vous savez, monsieur Darroussin, enfin Jean-Pierre, je me permets, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Donc je disais, Jean-Pierre, mon chéri, j'adorais ton spectacle, mon cœur. Un jour, tu as déclaré, je reporte toujours à demain ce que je dois faire le jour même. Et j'ai un véritable problème, je n'ai aucun ego. Bienvenue au club. Après avoir joué Rimbaud, tu pourras jouer un autre héros romantique, séducteur et fougueux. Moi, Hollande, le biopic, après le dormeur du Val, le dormeur de l'Élysée.
Jean-Luc Mélenchon vient d'arriver dans le studio.
Bonjour monsieur Vandel et bonjour monsieur Darroussin. Vous avez soif monsieur Darroussin ? Je peux aller vous chercher de l'eau si vous voulez, enfin de l'eau, du champagne, tout ce qui vous fera plaisir. Je soigne mes électeurs, monsieur Vandel. Vous nous avez soutenus en 2017 au présidentiel et au régional en 2020, donc on aimerait bien que ça continue. Un petit massage des pieds, peut-être ? Vous me dites si vous voulez un massage des pieds. Il n'y a pas de souci, Vandel s'en occupe.
Évidemment. Le président Macron est là pour vous.
Monsieur Darroussin, vous avez déclaré être acteur, c'est être traversé par les énergies, les volontés, les intelligences des autres. Je me suis dit pareil quand j'ai constitué mon gouvernement. Et puis Jean-Michel Blanquer est parti à Ibiza. Je n'ai donc plus qu'à me lancer dans le seul en scène comme vous. Les troupes d'amateurs, j'en ai ma claque.
Kylian Mbappé, c'est fan de football et il a lu aussi un message pour vous.
Oui, bonjour messieurs, dames. De facto, je voulais témoigner à monsieur Darroussin toute mon affection et ma compassion. En effet, monsieur Darroussin est supporter de l'OM. Donc soyez rassurés, je pars bientôt au Real. Donc je ne martyriserai plus jamais votre club. À moins que l'OM ne joue la Ligue des Champions. Non, c'est bien ce que je dis. Je ne martyriserai plus jamais l'OM.
Ils vont t'attendre à Marseille. Nabila, c'est une surprise et fan de votre travail.
Mais Rimbaud au théâtre, c'est ouf, quoi. Rien que reproduire la jungle du Vietnam sur scène, moi j'ai vu Rimbaud 1, Rimbaud 2, même le 4. Par contre, dans mon souvenir, Rimbaud, il était plus musclé, il avait plus de cheveux.
Rimbaud, le poète, Rimbaud en feu, c'est Jean-Pierre Daroussin sur la scène du Théâtre Antoine.
Nabila, je l'ai croisé pendant chez moi, et je trouve que l'appartement en dessous de chez moi est un espace sorte d'Airbnb, ouais. Et que Nabila, lorsqu'elle a accouché de son enfant, a occupé pendant un certain temps cet appartement. Et donc, je prenais l'ascenseur de temps en temps avec Nabila. Voilà.
Et alors ?
Eh ben, elle était là avec sa mère aussi, elle était charmante.
Non mais nous on attendait l'anecdote, monsieur le président, attendait l'anecdote.
J'attendais un dos, effectivement.
Merci beaucoup Jean-Pierre Daroussin, merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Yves Bigot, c'est le patron de TV5 Monde, le directeur général. Et on va parler des nouveautés de la chaîne et de l'adhésion, attention, de la principauté de Monaco à TV5 Monde. Et puis Daniel Picouli, l'écrivain, pour son autobiographie œnologique, ça s'appelle Les larmes du vin. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Bonjour mesdemoiselles, le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va parler des bonnes manières. Est-ce que vous êtes sûr d'être si bien élevé que cela en réalité ? On va faire le tour des bonnes manières pour pouvoir enfin sortir et ne pas avoir honte en société.
Et puis Philippe, notre dossier santé bien-être du jour, il va vous plaire. On va parler des techniques de rajeunissement du visage. Désormais, le gros lifting pour faire disparaître les rides, ben c'est plus du tout automatique. Il y a des méthodes beaucoup moins invasive et beaucoup plus personnalisée. On va tout vous expliquer dans l'émission.
Ça va beaucoup me plaire, d'autant que je n'ai rien fait, que je ne ferai jamais rien. Merci beaucoup, on vous écoute et je vous dis à demain 9h. Salut.